jour dissipe ton image et tu repars je ne sais où vers celui qui te tient en cage, celui qui va nous rendre fous. La nuit je deviens fou.
Bonjour à tous les auditeurs francophones et francophiles de Victoria. Le débrief, votre rendez-vous info, débute à l'instant à l'antenne de CILS FM 107,9. Il est 16h et des poussières. Alexis Gagnon en votre compagnie. Merci à tous d'être à l'écoute. On envoie tout de suite les deux bulletins quotidiens de Denis Lépine. Je vous retrouve dans un peu moins de 5 minutes avec la météo détaillée et les actualités provinciales, entre autres. En interview aujourd'hui vers 16h45, je reçois le directeur général de la Société francophone de Victoria, Paul-André Mongeau, qui nous parlera des films québécois qui seront programmés au 23e Festival du film de Victoria du 3 au 12 février. Bonne émission à tous. La production du débrief est rendue possible grâce au financement du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info et Ducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé les noms des 11 prochains membres du conseil jeunesse du premier ministre. Ils se joignent aux 15 autres membres actuels, ce qui porte à 26 le nombre de membres âgés de 16 à 24 ans. Le bureau du premier ministre a précisé avoir reçu 16 000 demandes de partout au Canada. Ils donneront leur avis au premier ministre et au gouvernement du Canada sur les politiques et les programmes qui sont importants pour eux et pour tous les Canadiens. Le gouvernement canadien annonce l'extension de 2 ans du contrat avec la société CAE pour le programme d'entraînement en vol de l'OTAN au Canada. La durée du contrat devait prendre fin en 2021. Le programme sera donc prolongé jusqu'en 2023 et comprend une option de prolongation d'un an. CAE fournit entre autres des services d'entretien des appareils et d'instruction sur simulateurs. Arjit Sajjan, le ministre de la Défense nationale, a dit que pour l'aviation royale canadienne, il est fondamental d'avoir la capacité de donner aux unités assez d'équipages aériens adéquatement formés. Technologie du développement durable Canada annonce que le groupe CleanTech a publié ses célèbres listes des 100 meilleures entreprises mondiales de technologie propre et d'entreprises à surveiller. Et parmi les 10 000 sociétés prises en considération et les 77 pays représentés, le Canada s'est vu attribuer 11 des 100 distinctions de la liste des 100 meilleures entreprises mondiales de technologie propre et a reçu 5 récompenses de la liste des entreprises à surveiller. C'est aujourd'hui que le Forum des politiques publiques doit publier son étude sur les médias d'information au Canada, intitulée « Le miroir éclaté, nouvelle démocratie et confiance dans l'ère numérique ». L'étude porte notamment sur le sous-développement des fournisseurs de nouvelles exclusivement numériques, la fusion des revenus tirés de la distribution en mode numérique et l'émergence de fausses nouvelles. Edward Greenspan, PDG du Forum, affirme que ce rapport a pour but de donner un aperçu de l'état des médias après 2 décennies de crise existentielle. Perry Bellegarde a fait une déclaration concernant les politiques à venir du président Donald Trump. Il a prévenu que les Autochtones du Canada se pencheront sur les décisions de Donald Trump, décisions qui pourraient avoir, selon le chef de l'Assemblée des Premières Nations, un impact sur le commerce, l'économie, mais aussi sur l'environnement partout au Canada. Il a dit aussi que les Autochtones ont le droit d'être partie prenante des projets dès le départ. Donald Trump a apposé sa signature à un ordre exécutif dans le dossier du mur à la frontière du Mexique. Le président américain a signé le décret lançant ainsi le projet de construction d'un mur. En conférence de presse, le président américain n'a pas mentionné le coût relié au mur. Il a également omis d'expliquer un éventuel mode de paiement. Rappelons que Donald Trump a toujours dit que la facture allait incomber au Mexique. Selon une filiale de la revue britannique The Economist, la démocratie a perdu du terrain à travers le globe en 2016. L'étude nous apprend que le résultat démocratique des États-Unis a glissé de 8,05 à 7,98 sur une échelle de 1 à 10. Et d'après le document, nos voisins du Sud ont maintenant une démocratie jugée défaillante. Une démocratie en santé requiert une note de 8 ou plus. Le Canada se classe au sixième échelon avec une note de 9,15. La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures a dévoilé les couleurs des rendez-vous de la francophonie 2017. Pour la 19e édition, les rendez-vous se dérouleront du 2 au 22 mars sous la thématique triennale 2016-2018, la francophonie en 3D, diversité, dualité, dynamisme. La fiche officielle est disponible en version électronique au rvh.ca. Et pour participer à certains concours déjà en ligne, les gens sont invités à visiter le site web. Au sport au hockey, Ligue nationale, victoire de Vancouver 3-2 contre le Colorado. Edmonton a blanchi Anaheim 4-0 et Toronto a fait de même contre Détroit 4-0. Ce soir, Montréal sera à New York contre les Islanders, Toronto à Philadelphie, Chicago recevra Winnipeg, Calgary sera à Ottawa, Vancouver en Arizona et Edmonton à San Jose. Dans la NBA, revers de Toronto 101-99 contre Memphis. Au tennis, aux internationaux d'Australie, entre autres présentations aujourd'hui des demi-finales féminines. Et au football canadien, selon le réseau TSN, le receveur de passe Doran Carter aurait signé une entente avec les Rough Riders de la Saskatchewan. Et selon le correspondant Gary Lawless, les Rough Riders feront une annonce officielle d'ici quelques jours.
Vous aurez reconnu Denis Lépine qui nous fournit fidèlement tous les jours ses bulletins d'information. Alexis Gagnon au micro. Le débrief commence en ce 26 janvier. Merci d'être avec nous. On va se tourner rapidement vers la météo. C'est 6 degrés au centre-ville de Victoria. Le mercure descendra à 3 degrés au courant de la soirée avec une probabilité d'averse de 30%. Pour demain, vendredi 27 janvier, maximum de 30% de probabilité d'averse. Samedi et dimanche, c'est sensiblement pareil. Pareil avec une couverture nuageuse au-dessus de Victoria, donc c'est nuageux et maussade, 8 degrés samedi et dimanche 29 janvier, maximum de 10 degrés, avec une probabilité d'averse un petit peu plus élevée, 60%. Et le retour du soleil, selon le pronostic d'Environnement Canada, est prévu pour le lundi 30 janvier. Nous nous rendons à présent au bulletin, au Radio-Journal des Nations Unies. Au retour, dans une dizaine de minutes, ce seront les nouvelles provinciales. À tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous, Isabelle Dupuis pour ce journal radio d'ONU Info, avec en titre « Réunion du Conseil de sécurité sur la situation humanitaire en Syrie ». L'ONU préoccupée par le regain de tensions à Bambari en RCA, le FIDA appelle à faciliter l'investissement du secteur privé dans les zones rurales et endosser l'appel d'un groupe d'experts de l'ONU à libérer 5 défenseurs des droits de l'homme cambodgiens. Le Conseil de sécurité a fait le point ce jeudi sur la situation humanitaire en Syrie. L'occasion pour le secrétaire général adjoint aux opérations humanitaires d'appeler les 15 à veiller à la pleine mise en œuvre des plans de livraison d'aide que l'ONU élabore chaque mois avant d'obtenir l'approbation des parties. Stephen O'Brien a indiqué qu'en dépit d'un taux important d'approbation de principe, seulement 2 ou 3 convois mensuels ont réussi à atteindre leur destination ces 3 derniers mois. L'ONU est pourtant prête à livrer de l'aide à des centaines de milliers de personnes, y compris dans des zones assiégées. Stephen O'Brien.
Que ce soit parfaitement clair, nous avons un groupe de travail humanitaire dont le seul rôle est de garantir l'accès. Et depuis le 30 décembre, nous avons un cessez-le-feu qui a amélioré la sécurité dans de nombreuses zones. Et pourtant, en dépit de ces 2 facteurs positifs, nous continuons d'être bloqués à chaque tournant en raison de l'absence d'approbation au niveau central et local, de désaccords sur les routes d'accès et de violations des procédures agréées à chaque point de contrôle par les parties au conflit. Nous ne pouvons tout simplement pas aller de l'avant, car si un travailleur humanitaire courageux franchit un point de contrôle sans l'aide de facilitation et sans que les commandements soient ensuite transmis, le garde ou son tireur d'élite tirera. Sans vouloir sembler être sur la défensive, ce n'est pas à l'ONU ou aux ONG qu'incombe la faute, mais au gouvernement syrien et aux gouverneurs locaux. C'est vers eux qu'il faut diriger votre influence. Nous devons être autorisés à passer. Ce n'est pas une faveur, mais un droit, et nous devons pouvoir le faire en toute sécurité. And safely.
Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a fait part mercredi de son inquiétude face au regain de tension dans la préfecture de la Waka au centre de la République centrafricaine, laissant craindre une explosion de violence entre groupes armés rivaux dans la ville de Bambari. Plus d'explications avec Florence Westgaard.
Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a averti qu'avec une population de 42 000 habitants et plus de 26 000 déplacés, un conflit ouvert à Bambari serait dévastateur pour la population civile. Située à 385 km de la capitale du pays, Bangui, Bambari a déjà subi les conséquences de plusieurs vagues de violence causées par des groupes armés. Otcha appelle les groupes armés et tous les acteurs non étatiques à ne pas perdre de vue l'impact d'un affrontement violent sur la situation déjà délicate des civils, les exhortant par ailleurs à ne pas hypothéquer les acquis des deux dernières années en termes de réconciliation, de cohésion sociale et d'amélioration de la situation humanitaire. A rappeler que depuis le début du conflit, le 21 septembre 2016, dans la ville de Bria, la préfecture de la Waka a enregistré plus de 18 000 nouveaux déplacés. La ville de Bambari accueille à présent 300 nouveaux déplacés provenant des localités situées sur l'axe Bambari-Ipi-Bria.
Toujours en Afrique, le nouveau représentant spécial du secrétaire général pour le Soudan du Sud, David Shear, a accordé ce jeudi une interview exclusive à Radio Miraya. Conscient des importants défis à relever, le nouveau chef de la MINUS, la mission de l'ONU déployée dans le pays, entend passer ses premières semaines à écouter ce qu'ont à dire les différents interlocuteurs, notamment les autorités, mais aussi les autres parties prenantes, sans oublier la population. David Shear.
Les Nations Unies, ici au Soudan du Sud, sont là pour aider le pays à aller de l'avant. Nous respectons le combat extraordinaire et le parcours que le Soudan du Sud a dû emprunter pour gagner sa souveraineté en tant que petite nation. La façon dont le pays est géré est l'affaire du gouvernement et de son peuple. Cela ne regarde pas les Nations Unies. Nous sommes ici pour soutenir. Et je pense que le succès de ce soutien se mesurera certainement quand l'ONU partira, quand la mission de maintien de la paix quittera le pays. Et ce sera merveilleux si nous arrivons au point où nous sentons que notre présence n'est plus nécessaire. Ce sera pour moi le meilleur indicateur de mon succès ici dans le pays, si j'arrive à le faire.
265 milliards de dollars, c'est la somme qui devra être mobilisée chaque année pour éliminer la faim et la pauvreté d'ici à 2030. Lors d'une conférence consacrée à la recherche de moyens novateurs pour financer le développement rural, le Fonds international de développement agricole a appelé hier à faciliter l'investissement du secteur privé et des philanthropes dans les zones rurales où les taux de pauvreté et de faim sont les plus élevés. Les explications d'Adolfo Brizzi, directeur de la division du Conseil politique et technique du FIDA.
Il y a plusieurs mécanismes qui existent, des mécanismes de type, comment dire, impact finance, des mécanismes de type instruments financiers, que ce soit des lignes de crédit, des fonds de garantie, le secteur de l'assurance, le secteur du warrantage, les transferts de fonds des migrants, les donations partagées. Donc il y a des instruments qui existent et on veut voir de quelle façon ces instruments qui existent peuvent être intégrés pour enlever les risques essentiels que le secteur privé perçoit lorsqu'il travaille dans ce secteur. Parce que c'est clair que si on veut attirer le secteur privé dans le secteur de la petite agriculture familiale, la principale contrainte souvent ce sont les risques qu'eux ils perçoivent de travailler dans ce secteur.
Des experts des droits de l'homme de l'ONU ont demandé au gouvernement cambodgien de libérer immédiatement 5 défenseurs des droits de l'homme détenus depuis le mois de mai pour corruption. Les accusations sont considérées comme étant politiquement motivées et la détention des 5 hommes a également été jugée arbitraire par le groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU. Président de ce groupe, Roland Adjovi, a accepté de répondre aux questions de Florence Westgaard.
Le groupe de travail a considéré que ces 5 défenseurs des droits de l'homme ont été visés, discriminés, sélectionnés et un dossier a été monté contre eux en quelque sorte et que ce montage est une façon de conduire une représailles à leur encontre et de les punis pour leur activité en matière de droits de l'homme et pour leur liberté d'expression et d'opinion. Donc le groupe de travail a été saisi par des proches, par des organisations autour de ces personnes-là. Et après avoir entendu le gouvernement du Cambodge, Malheureusement, le gouvernement n'a pas répondu. Mais le groupe de travail a écrit au gouvernement pour dire voici la plainte qu'on a reçue. Donc, c'est après avoir analysé l'ensemble de l'information qui lui a été rapportée que le groupe de travail a conclu qu'il y avait violation de leurs droits. Dans cette décision, il y a trois éléments en gros. D'abord, il y a le fait que ces individus ont été visés, ciblés spécifiquement par une violation du principe de non-discrimination. Il y a le fait que cette discrimination est basée sur le fait que c'est des individus qui défendaient des droits d'autres personnes et d'eux-mêmes et qui voulaient s'exprimer librement dans leur société. Donc, violation de leurs droits, de leur liberté fondamentale. Et dernier élément, dans la procédure pénale qui s'en est suivie, leur droit à un procès équitable a été aussi violé. Ils n'ont pas eu droit à des avocats. Le procès était biaisé et les autorités politiques aussi ont fait des déclarations y allant dans le sens de la condamnation de ces personnes. Donc c'est l'ensemble de ces éléments que le groupe de travail a utilisé pour conclure à une détention arbitraire et demander que le gouvernement les libère immédiatement.
Mais justement, qui sont ces personnes, donc ces cinq défenseurs des droits de l'homme?
C'est des individus qui sont bien connus pour leur activité en matière de droits de l'homme. Ils ont monté une organisation pour représenter et parler au nom de la société civile. Et le groupe de travail, durant son enquête, s'est rendu compte qu'il y a une pratique de plus en plus avancée du gouvernement de faire taire ces acteurs de la société civile.
Est-ce peut-être un rétrécissement de l'espace démocratique au Cambodge?
Oui, tout à fait. La discrimination qui vit ces individus tend à faire taire toute voix de liberté dans cette société. Et c'est ce que le groupe de travail a constaté comme étant une violation de leurs droits. Parce que tout ce qui est fait contre eux, c'est parce qu'ils sont acteurs de la société civile et qu'ils s'expriment indépendamment du gouvernement et qu'ils critiquent le gouvernement. Et donc, cette pratique-là qui se développe au Cambodge tend à réprimer toute liberté. Donc, c'est un rétrécissement de l'espace démocratique et des libertés fondamentales au Cambodge.
Mais c'est aussi incompatible avec, je pense, l'article du pacte international, n'est-ce pas, relatif aux droits civils et politiques du Cambodge, que le Cambodge a signé.
Tout à fait. C'est d'ailleurs ce que le groupe de travail a dit, que c'est une violation de l'article 26 du pacte international des droits civils et politiques de 1966 que le Cambodge a ratifié, pas seulement signé. Ça veut dire que le Cambodge a accepté cette convention internationale comme loi obligatoire pour lui. Et donc, il doit respecter les droits qui sont inscrits dans cette convention-là.
Et c'est avec Roland Adjovi que se referme ce journal radio d'ONU Info, une édition retrouvée sur l'Internet. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
h 16 en ce 26 janvier. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria, en direct ou encore en rediffusion dans la matinée du 27 janvier. Nous allons nous tourner à présent vers les nouvelles provinciales et on commence par une nouvelle aperçue sur le portail de Radio-Canada. Loi électorale de la Colombie-Britannique, la Cour suprême du Canada rejette le pourvoi de la FIPA. La Cour suprême du Canada rejette l'appel de l'Association provinciale pour l'accès à l'information et la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique, la FIPA, sur la question de la loi électorale de Colombie-Britannique. L'organisme affirme que la loi actuelle restreint la liberté d'expression dans la province et qu'elle devrait comprendre une expression pour les tiers partis qui dépensent moins de $500 en publicité électorale. Au cœur de cette cause, la restriction de l'expression politique lors des campagnes électorales provinciales, ici en Colombie-Britannique. Le groupe de défense, donc la FIPA, explique que selon lui, la loi électorale de la Colombie-Britannique est inconstitutionnelle. Il avait déposé en 2013 une action en justice pour la combattre. Selon cette association, la FIPA, un citoyen qui installerait une affiche partisane, même réalisée à la main, sur sa fenêtre, pourrait se voir infliger une amende. Tout citoyen est tenu d'enregistrer, en effet, dans notre province, cette forme de communication avec le gouvernement avant de la rendre visible. Selon l'article 239 de la loi électorale de la Colombie-Britannique, les commanditaires doivent s'inscrire auprès du directeur général des élections. Alors, dans son jugement, la juge en chef Beverly McLachlan avait considéré que la loi ne vise pas ce type de publicité électorale à petite échelle. Donc, Pour aller plus en profondeur, vous pouvez consulter la nouvelle qui paraît sur le portail britanno-colombien de Radio-Canada. Le titre, Loi électorale de la Colombie-Britannique, la Cour suprême du Canada rejette le pourvoi de la FIPA. Toujours à propos de recours judiciaires, cette fois à propos des droits linguistiques, un recours juridique auprès d'Ottawa pour des services à l'emploi en français en Colombie-Britannique. C'est à nouveau sur le portail de Radio-Canada qu'on repère cette nouvelle. La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, la FFCB, poursuit sa bataille lancée en 2013 en cour fédérale pour forcer Ottawa à remplir, selon elle, son obligation en matière de langues officielles. Cette obligation est bafouée, dit la FFCB, depuis que le fédéral a décentralisé ses services à l'emploi, les mettant entre les mains de la province anglophone. Le recours judiciaire oppose la FFCB au ministère des Ressources humaines et du développement des compétences du Canada. Le respect des langues officielles est au cœur de ce recours, dit l'article paraissant sur Radio-Canada. En 2008, le gouvernement fédéral avait transféré les services à l'emploi à la Colombie-Britannique, rappelle le texte. Ce faisant, puisque le provincial n'a pas l'obligation du bilinguisme dans les services provinciaux, les services en français, conséquemment, ne sont plus garantis. Selon le directeur général de la FFCB, Robert Rotton, cette situation a miné la vitalité de la communauté francophone ici dans la province. Il est plus difficile, dit-il, d'aller chercher des personnes nouvellement arrivées, car ces gens-là ne se rendent plus chez nous pour s'intégrer à la communauté par le biais d'une recherche d'emploi, a-t-il soutenu dans cette interview accordée à Radio-Canada. Donc le titre, un recours juridique auprès d'Ottawa pour des services à l'emploi en français en Colombie-Britannique. Et poursuivant dans ce bloc provincial, cette fois du côté de l'agence QMI, un article qui concerne Vancouver. Vancouver pourrait interdire de garder des baleines en captivité. Des élus de Vancouver se prononceront lundi sur la possibilité, se sont prononcés contre l'acquisition de baleines à l'aquarium de Vancouver, le temps de statuer si le centre pourra garder les mammifères qu'il possède déjà. Donc cette nouvelle paraissait dans les colonnes de l'agence QMI. Vancouver pourrait interdire de garder des baleines en captivité. Et toujours à propos de Vancouver, la presse canadienne nous apprend que les conseillers municipaux ont décidé de l'emploi d'une somme de 2 millions qui ira à la lutte contre les surdoses d'opioïdes, une crise qui frappe gravement la province et particulièrement la ville de Vancouver. Donc cette somme de 2 millions de dollars sur laquelle devaient se décider les conseillers municipaux ira à un centre de formation pour le personnel municipal de première ligne de façon à ce qu'ils puissent traiter de façon plus efficace les cas de surdose aux opioïdes à l'avenir. Autrement, cet argent sera aussi consacré à la création d'un nouveau centre communautaire policier, donc un nouveau centre de police qui déploie une approche communautaire, une police de proximité, si vous voulez. Et enfin, dans cet article de la presse canadienne, on mentionne que cette enveloppe de 2 millions sera aussi consacrée à la mise sur pied d'une clinique médicale mobile itinérante qui sera basée dans une caserne de pompiers du quartier chaud de Downtown Eastside à Vancouver. Donc c'est une bonne nouvelle, Vancouver qui continue de prendre des mesures, qui continue d'être active en réponse à cette crise des surdoses qui a coûté la vie à plus de 900 personnes dans la province en 2016. Le mois de décembre a été particulièrement meurtrier. Plus de 140 personnes sont mortes par surdose au cours du mois de décembre et nombre d'entre elles étaient à Vancouver, bien sûr. Donc le maire de Vancouver, Gregor Robertson, s'est déclaré satisfait de l'utilisation de cette enveloppe de 2 millions de dollars. L'article rappelle qu'une taxe immobilière de 0,5% a été levée le mois dernier afin de dégager des ressources qui pourront être consacrées à la lutte contre cette crise, à combattre cette crise des surdoses dans la ville de Vancouver. Le maire a aussi appelé l'ordre fédéral, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial à en faire davantage voyage pour régler ses problèmes de surdose. Autrement, dans les colonnes de Victoria News, ici, plus près de chez nous, dans la ville de Victoria, un article sur l'accès au logement. Victoria News, sous la plume de la journaliste Pamela Roth, nous apprend que de nombreux propriétaires de logements pratiquent une méthode d'éviction, d'expulsion déguisée, c'est-à-dire qu'ils prétendent de faire des rénovations, mais en fait ces rénovations ont pour fin première de dégager les locataires et d'ensuite rehausser le montant des loyers. Alors, c'est une pratique qui est déplorée par quelques conseillers municipaux, dont Jeremy Loveday, qui est élu de VicWest au conseil municipal de Victoria. Donc, les observateurs de cette situation croient que les hausses de loyers imposées suite à des rénovations sont injustes et unilatérales et qu'elles devraient être soumises d'abord aux autorités municipales pour approbation, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Les hausses sont soumises au bon vouloir du marché, finalement, et les propriétaires ont la libre cours. Voilà, donc cet article paraissant dans Victoria News, fort intéressant sur l'accès au logement à Victoria, s'intitule « More residents fall victim to renovictions ». Donc, « renovictions », c'est une contraction de rénovation et de éviction. Alors, ce sont des réno-expulsions, si vous voulez. C'est dans Victoria News. Je vous conseille la lecture de cet article. On va s'arrêter quelques instants pour faire la petite pause musicale de 16h25. On a 6 degrés au centre-ville de Victoria. C'est Alexis Gagnon en votre compagnie jusqu'à 17h. Merci d'être avec nous. On va écouter une pièce qui vient tout juste de nous arriver. C'est une nouvelle pièce de Louis-Jean Cormier. Elle s'intitule « Complot d'enfants » et on se retrouve dans quelques minutes pour les nouvelles du jour. À tout de suite. Thank you. complot d'enfants à l'antenne de CILS FM 107,9. Merci d'être à l'écoute du débrief. Il est 16h28 et on va s'acheminer vers les nouvelles du jour. Première nouvelle qui nous arrive de Montréal, c'est assez retentissant. L'ex-maire de Montréal, il était maire par intérim suite au départ de Gérald Tremblay il y a quelques années, souvenez-vous. Michael Applebaum a été reconnu coupable des 14 chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Ça a été annoncé cet après-midi. Je vous lis quelques lignes du papier paru dans la presse canadienne. Michael Applebaum, l'ex-maire de Montréal par intérim, a été reconnu coupable de 8 des 14. Donc c'est une partie des chefs d'accusation, 8 des 14 chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Il avait plaidé non coupable aux accusations auxquelles il faisait face, notamment pour fraude et abus de confiance. Donc on aura plus de détails là-dessus la semaine prochaine. La nouvelle est encore toute fraîche. On va passer à une autre nouvelle de la presse canadienne. Des manifestants accueillent Justin Trudeau à l'université de Regina. Donc c'est en provenance de Saskatchewan. Le premier ministre Justin Trudeau a été accueilli par des manifestants criant « L'eau, c'est la vie, water is life » alors qu'il arrivait à l'université de Regina pour y rencontrer des étudiants aujourd'hui, jeudi 26 janvier. Justin Trudeau a répondu qu'il était d'accord avec cette affirmation « L'eau, c'est la vie » et a continué à se frayer un passage dans un long couloir qui était rempli d'étudiants qui souhaitaient se faire prendre en photo avec lui. D'autres manifestants brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Les gens avant les oléoducs ». Cette visite à l'université mettait un terme au passage de Justin Trudeau en Saskatchewan, où il a participé à une assemblée publique à Saskatoon mercredi soir avant de déjeuner avec des cadets à Regina jeudi matin aujourd'hui. Justin Trudeau a récemment approuvé, rappelons-le, deux importants projets, celui de l'oléoduc Trans Mountain qui traverse l'Alberta et la Colombie-Britannique pour finir sa course à Burnaby dans la région de Vancouver. Il avait aussi approuvé récemment la ligne 3 d'Enbridge qui se dirige vers les Grands Lacs à partir de l'Alberta. Donc, dernière interaction entre Justin Trudeau et les opposants au pipeline en date, c'est rapporté par la presse canadienne. Des manifestants accueillent Justin Trudeau à l'université de Regina. Autrement, toujours dans la presse canadienne, nous apprenons que la compagnie AltaGas a annoncé son acquisition du service public d'électricité américain WGL Holdings lors d'une transaction de 8,4 milliards de dollars canadiens. Cette entreprise de Calgary, AltaGas, a indiqué que la transaction ferait d'elle une des plus grandes sociétés diversifiées d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord. En vertu des détails de l'entente, les actionnaires de WGL recevraient 88,25 US en espèces pour chacune de leurs actions, soit une prime de 11,8% par rapport à la valeur de clôture de l'entreprise en date de mardi cette semaine. Donc selon la compagnie AltaGas, la transaction de 8,4 milliards de dollars tient en compte la prise en charge d'une dette de 2,4 milliards de dollars de la société WGL Holdings. Donc grosse transaction aujourd'hui pour cette compagnie albertaine AltaGas. Autrement, dans le journal Les Affaires, sur le portail lesaffaires.com, une nouvelle concernant le libre-échange intra-canadien, donc un libre-échange entre les provinces, si vous voulez. On entend beaucoup parler du libre-échange entre les pays dernièrement, mais le libre-échange n'est pas total entre les provinces canadiennes. Il y a des barrières et justement, un accord se négocie sur le libre-échange canadien, interprovincial. Alors, ça s'appelle l'accord canadien de libre-échange, l'ACLE, et Les Affaires nous en parlent à la suite de la parution d'un article dans le Globe and Mail. Le futur accord canadien de libre-échange, l'ACLE, comprendra diverses mesures pour stimuler les échanges interprovinciaux, dont un accès équitable aux marchés publics des provinces et une libéralisation du commerce des biens et services étendue à presque tous les secteurs de l'économie, a appris le journal Les Affaires. Ottawa et les provinces devraient rendre public cet accord interprovincial dans les prochaines semaines, a rapporté le Globe and Mail cette semaine. Selon le quotidien torontois, les parties ont conclu les négociations et les cabinets d'un bout à l'autre du Canada sont en train d'approuver l'entente. En 2014, Ottawa et les provinces avaient amorcé des pourparlers pour améliorer l'actuel accord sur le commerce intérieur, l'ACI, et en juillet 2016, les parties ont annoncé un accord de principe avec l'objectif de conclure une entente finale en 2017, à temps pour le 150e anniversaire du Canada. Donc l'ACLE, comme on l'appelle, cet accord canadien de libre-échange, l'ACLE, va couvrir 6 grands secteurs, nous apprend cet article du journal Les Affaires sur le portail lesaffaires.com. Alors, numéro 1, les marchés publics. Alors, toute construction de routes, d'infrastructures, une salle de concert, un centre d'exposition, etc., sera englobée, sera couverte par cet accord. Les biens et services, l'investissement, la coopération sur la réglementation, la réduction des obstacles techniques au commerce et la protection de l'environnement. Alors, on espère que l'on n'observera pas de fâcheuses tendances, celles des autres accords de libre-échange internationaux, à prendre le pas sur certaines règles environnementales, certaines lois qui visent à protéger l'environnement au motif qu'elles sont en contravention avec l'esprit de l'accord du libre-échange. Alors, espérons qu'on verra pas un nivellement par le bas des réglementations en santé, en environnement, en éducation aussi. Donc on sera à l'usage. Pour le moment, l'ACLE n'est pas encore une réalité. Vous pouvez aller plus loin dans le sujet. Cet article se poursuit sur plusieurs paragraphes vers un libre-échange intérieur au Canada. C'est dans le journal Les Affaires en date d'aujourd'hui, sous la plume du journaliste François Normand. Et toujours dans cette revue des nouvelles du côté du média Courrier International qui nous signale, comme bien d'autres d'ailleurs, tous les médias à vocation économique l'ont fait, nous signale que l'indice Dow Jones du New York Stock Exchange a passé le cap historique des 20 000 points mercredi pour la première fois. Donc tout un symbole, écrit Courrier International, pour le nouveau locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, dont la stratégie inspire confiance aux investisseurs. Alors, il y a une grosse levée de boucliers sur les décisions de Donald Trump, mais du côté des marchés, on semble très heureux, pour le moment du moins. Donc, une forte clameur, nous rapporte Courrier International, et soudain montée de la salle des marchés du New York Stock Exchange, quand le Dow Jones a franchi la barre des 20 000 points le 25 janvier. Il y a même des courtiers sur le plancher de la bourse qui ont sorti des casquettes Dow 20 000 qu'ils tenaient prêtes pour célébrer ce cap historique. Et le Wall Street Journal aussi, bien sûr, a parlé de ce passage, de ce seuil important qui avait jamais été atteint auparavant par le Dow Jones. Et il a signalé justement le curieux phénomène de voir le Dow Jones atteindre 20 000 points alors que la Grande-Bretagne est en situation de Brexit, alors qu'on a un protectionniste enragé, entre guillemets, à la Maison-Blanche, et que la France pourrait sortir de l'euro si la présidentielle porte au pouvoir le Front National. Donc tout ça, remarque le Wall Street Journal, ne semble pas inquiéter le marché. Le Dow Jones a été porté par un mouvement haussier au cours des derniers jours et ça semble difficile de l'expliquer, reconnaît l'auteur de cet article, Greg Hipp, passant dans les colonnes du Wall Street Journal. Donc on verra quelle courbe suivra le Dow Jones maintenant que ce cap est passé. C'est à suivre. Autrement, toujours dans le secteur économique, à propos de pipeline, le patron de TransCanada dit consulter les clients sur la relance du pipeline Keystone XL. Le chef de la direction de TransCanada affirme que l'entreprise s'entretiendra avec les expéditeurs afin de déterminer s'ils appuient puis encore l'oléoduc Keystone XL, un projet qui avait été rejeté par l'administration Obama, mais auquel le président Donald Trump a souhaité donner une nouvelle vie. Dans ses premiers commentaires depuis que le président avait invité TransCanada à soumettre de nouveau sa demande pour la construction de l'oléoduc transfrontalier, le PDG Russ Girling a dit croire que la pertinence économique du projet pouvait encore aujourd'hui être démontrée. Donc TransCanada est heureux de cette invitation de Donald Trump à resoumettre la demande d'autorisation du pipeline. Et on verra ce que ça veut dire pour les autres projets de pipeline, puisque TransCanada souhaite également faire construire un pipeline qui s'appelle Energy Est, un pipeline qui traverserait 800 cours d'eau au Québec et au Nouveau-Brunswick. Alors, un autre projet controversé. Et c'est sur cette nouvelle concernant TransCanada qu'on referme le bloc des nouvelles du jour. On s'en va en musique quelques minutes. On va faire la pause avec un artiste qui s'appelle Pierre-Hervé Goulet. C'est tiré d'un album intitulé Une chose à la fois. Et c'est la pièce éponyme Une chose à la fois qu'on entend tout de suite dans le débrief. On se retrouve dans 2 minutes pour les éditoriaux.
Bien le faire la première fois, on recommence à chaque fois quand on fait deux choses à la fois, une chose à la fois. Faut faire une chose à la fois, bien le faire la première fois, on recommence à chaque fois quand on fait deux choses à la fois, une chose à la fois. C'est fou comme y'a rien qui marche quand on court après le temps, quand on court après le temps, y'a rien qui marche. C'est évident, c'est fou quand y'a comme le disait mon père, tant pas faire en si peu de temps. Une chose à la fois. Ah, ah. Il ne faut pas péter sa coche, surtout pas péter sa coche contre le temps qui change. Et pas comme qui en dépense, il me dit bon, un peu d'avance que le test est sa patience. Qu'on se fait pendre en quatre, m'a dit l'arbre ambitieux qui a fini par s'abattre. Le temps est un libertin qui pousse en liberté. Je me répète en vain que je devrais m'en douter et faire une chose à la fois, bien le faire la première fois. On recommence à chaque fois quand on fait deux choses à la fois. Une chose à la fois, bien le faire la première fois. On recommence à chaque fois quand on fait deux choses à la fois.
L'artiste Pierre-Hervé Goulet, il est 16h41, merci d'écouter CILS FM 107,9. Vous êtes dans l'émission Le Débrief, l'info se poursuit. On va jeter un petit coup d'œil aux éditoriaux. J'ai repéré un texte d'opinion très intéressant sur le portail Ricochet, ricochet.info. C'est un média anglophone et francophone qui penche du côté gauche. C'est un média progressiste et le texte de l'éditorialiste Gabriel Brassard-Lecourt porte aujourd'hui sur la Women's March de Washington, une marche qui a été reprise dans plusieurs villes du monde, notamment ici en Colombie-Britannique, à Victoria et à Vancouver au cours du week-end. Alors le titre de cet édito signé par Gabriel Brassard-Lecourt, ce n'est qu'un début, continuons-le. Combat. Déjà 3 jours ont passé, écrit-elle, depuis la marche des femmes à Washington et partout ailleurs, mais compte tenu de l'importance de cet événement historique auquel j'ai eu la chance d'assister, je juge qu'il est encore pertinent et plus que jamais d'en parler et surtout d'analyser la signification de cette marche et ce que ça veut dire pour l'avenir. Et une citation de Simone de Beauvoir est placée dans l'entête de cet édito de Gabriel Brassard-Lecourt. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Une citation de Simone de Beauvoir. Donc le texte se poursuit. Depuis vendredi dernier, un seul nom sur toutes les lèvres, placardé sur des millions de pancartes partout à travers le monde samedi lors des marches des femmes, écrit dans nombre d'affiches, faisant son apparition dans tous les fils Facebook, Twitter, au point que plusieurs se demandent comment bloquer les contenus qui portent ce nom pour ne pas devenir fou ou folle, ne pas complètement déprimer. Avec raison. J'ai donc décidé de ne pas le nommer, ce nom, dans ce présent texte. Il l'est déjà trop nommé et nous ne sommes qu'au début. Alors, vous devinez de quel nom il s'agit. C'est le nom du président, bien sûr. Et le texte se poursuit un petit peu plus loin, alors que déjà le gouvernement incarné par le richissime promoteur immobilier recule sur les droits à l'avortement, les changements climatiques, les droits des personnes LGBT et encourage les projets d'oléoduc, il est à prévoir que d'autres marches verront le jour. Et plus encore, que des actions concrètes seront mises en place pour décourager le nouveau président de faire reculer son pays à l'ère préhistorique, ce qu'il semble bien résolu à faire. Les médias qui ont par ailleurs largement contribué à son élection, malgré leur fausse surprise au lendemain des résultats, devront aussi travailler très fort à démentir la propagande déjà outrageuse et mensongère de l'attaché de presse de la Maison-Blanche. Alors, il est question ici de Sean Spicer. Peut-être aurez-vous vu passer quelques-unes des déclarations à l'emporte-pièce de ce porte-parole du président Trump. Le texte se poursuit. Comme pendant la course à la présidence américaine, il est grand temps que les médias comprennent leurs responsabilités sociales et politiques après avoir contribué à porter un tel être à la tête d'un pays. Et pour la suite des choses, il sera impératif qu'ils prennent davantage au sérieux leur rôle de contre-pouvoir critique en ne participant pas à sa démence de démagogue qui passera sans nul doute par la presse et les réseaux sociaux, comme ce fut le cas pendant la campagne électorale de l'automne dernier. Donc un long texte qui se poursuit encore sur plusieurs lignes. Je vous encourage à le consulter. C'est sur le portail Ricochet. Ricochet, ce média anglophone et francophone, ricochet.media, sous la plume de Gabriel Brassard-Lecourt, en date d'aujourd'hui. Voilà qui conclut cette petite revue des éditos. On va se rendre bientôt à l'interview du jour. Je vous le mentionnais en début d'émission. On parle de cinéma aujourd'hui en compagnie du directeur général de la Société francophone de Victoria. On parle des films québécois qui seront programmés au 23e Festival du film de Victoria, le VFF. Restez à l'écoute, c'est dans un instant. Vous écoutez CILS FM 107,9 en fin de journée. Merci d'être à l'écoute de l'émission Le Débrief. Alexis Gagnon en votre compagnie jusqu'à 17h. J'ai le plaisir de recevoir en studio Paul-André Mongeau, le directeur de la Société francophone de Victoria. Bonjour Paul-André.
Bonjour Alexis, comment ça va?
Merveilleux de te voir aujourd'hui. Donc pour en plus parler de cinéma, le Festival de films de Victoria, le VFF, remet ça. La 23e édition aura lieu très très bientôt, du 3 au 12 février. Et il y a un petit volet québécois cette année, n'est-ce pas, Paul-André?
Oui, absolument, absolument. Il y a François Lemieux qui arrive avec la tournée du cinéma québécois. Intéressant, cette année, il y a 5 films québécois qui vont être en liste dans la tournée du cinéma québécois. Je peux te faire rapidement juste...
Oui.
Donc, ça va avoir lieu à compter de samedi 4 février. Les films vont être au théâtre Odéon sur la rue Yates.
Oui. Et très belle salle.
Voilà, c'est merveilleux. Et la beauté, c'est qu'on a trois des cinq films qu'on va avoir, soit des acteurs, soit les réalisateurs sur place, dans une formule ciné-club qui va avoir lieu. Donc, je vais pouvoir présenter le film. Après ça, on va pouvoir recevoir des questions. Donc, les films, je les défile rapidement. Il y a « Pays » de Chloé Robichaud, qui est à 19h, samedi le 4 février. Après ça, on va passer en date du dimanche 5 février. On va voir Prank, qui est un film de Vincent Biron. Vincent va être sur place, donc c'est les réalisateurs.
Génial.
Et après ça, nous allons avoir lundi deux films. Un qui va avoir lieu à 6h30, qui s'appelle King Dave, et l'autre qui s'appelle le film 1h54 vers 1h54 de Ian England, qui va être présent.
J'aperçois un cinquième titre, « Mes nuits feront écho » de Sophie Goyette.
Oui, oui, absolument. Ça va avoir lieu lundi le 6 février à 19h et c'est au Parkside Hotel. Ça, c'est donc, c'est différent du cinéma Odéon. Ça, c'est à 19h.
Okay.
Et il n'y aura pas de formule question-réponse pour ça.
D'accord. Là, voilà. Donc, cinq titres en tout. Donc, une belle brochette. Et les cinéphiles francophiles et francophones vont être gâtés. Il y a vraiment des noms qui sont connus. Je pense à Pods, par exemple, qui a réalisé des séries télé qui ont été très suivies par les téléspectateurs. Autrement, il y a Chloé Robichaud qui a signé des longs-métrages qui ont été programmés au Festival de Cannes au cours des dernières années, 2012-2013, je crois.
Et Yves-Jacques va être là, donc il est un des acteurs qui va être dans Pays.
Merveilleux.
Il va être là pour la présentation et répondre aux questions aux gens. Puis c'est sûr que Yves-Jacques, on n'a plus besoin de le présenter vraiment.
Exact, ça promet. Mm-hmm. Comment se renseigner donc pour avoir tous les détails si on veut aller à l'une ou l'autre des projections?
Le portail se retrouve à francocentre.com, donc francocentre.com, qui se trouve être le site de la Société francophone de Victoria. Ça se trouve être le portail pour la tournée du cinéma québécois à compter de demain après-midi, donc vendredi. Nous allons avoir les bannières individuelles pour chacun des films. En cliquant sur les bannières, vous allez pouvoir trouver toute l'information ainsi que des liens pour pouvoir acheter les billets un par un.
Carrément.
Carrément, absolument. Aujourd'hui, il faut être numérique. On comprend que notre auditoire, environ 60 à 65% selon nos sondages, automatiquement vont être sur une plateforme qui va être mobile. Donc, on a conçu le tout pour que ça puisse être facilement on peut acheter notre billet directement à partir de notre tablette, notre téléphone intelligent ou, comme de raison, à la maison, assis avec notre tablette ou bien assis confortablement à l'ordinateur de bureau.
OK, donc cette tournée pan-canadienne du cinéma québécois, c'est un succès puisque la formule revient encore cette année, donc on est satisfait, c'est bien installé et la programmation, c'est vraiment une sélection des films qui sont parmi les meilleurs de la dernière année.
Absolument.
Alors on encourage bien sûr les auditeurs à être nombreux à ce rendez-vous. On le répète, c'est la formule Ciné-Club, ça veut dire qu'on est en présence de certains des acteurs, créateurs du film, et il y a des questions-réponses à la toute fin, questions qui sont animées par Paul-André Mongeau.
Voilà.
Autre chose à dire en terminant?
Peut-être juste répéter les trois films qui se trouvent être Pays, samedi 4 février, qui va lieu à 19h, ça a lieu au Théâtre Odéon 5. Yves-Jacques va être présent sous cette formule-là. Après ça, on va avoir dimanche 5 février à 21h45, toujours au Théâtre Odéon. On va avoir Vincent Biron sur place. Et pour terminer la tournée du cinéma québécois, on va voir Ian England à 21h45 lundi, toujours au Théâtre Odéon à la salle 5.
Magnifique. Donc, vive le 7e art, vive le cinéma québécois. C'est au VFF 23e édition du 3 au 12 février. Toutes les infos sur francocentre.com. Merci beaucoup, Paul-André. Au plaisir de te retrouver bientôt dans le studio de CILS.
Merci beaucoup, Alexis.
Laisse-moi t'arracher de ceux qui s'inventent des dieux. Si je t'emmène dans le bois, l'endroit où
Puis après deux bonnes bouffées d'air, tu me diras ce que je peux faire. Parce que là, tu t'enfonces et j'ai pas de réponse. Tu fabules, tu délires et je sais pas quoi dire. Tu trembles, tu maigris, t'as le teint pâle et gris. Tu changes et je m'ennuie de mon meilleur ami. Moi, je fais quoi, je fais quoi? J'attends de devenir folle pour voir ce que tu vois. Toi, qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu fous? On dirait que tu décolles et que tu deviens fou. Je découvre la face cachée de ton visage, comme les traits effacés sous une belle image. Je lis dans tes yeux comme dans un livre ouvert, et même si tu le refermes, je peux lire au travers. Et là je le vois, tu t'enfonces à chercher des réponses. Tu fabules, tu délires, plus rien ne te fait rire. Tu mens, tu oublies, t'endors plus la nuit. J'attends de devenir folle pour voir ce que tu vois. Toi, qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu fous? On dirait que tu décolles et que tu deviens fou.
Pièce fou à l'antenne de CLS FM 107,9 dans l'émission Le Débrief. C'est chanté par l'artiste francophone Andréane à Mallette. L'émission est presque terminée. Il reste quelques minutes. On va faire un dernier petit tour du côté de la météo. C'est 6 degrés au centre-ville de Victoria actuellement. Le mercure descend à 3 degrés ce soir avec une probabilité d'averse de 30%. Demain, cette probabilité demeure identique, 30% avec un maximum de 7 degrés. Ça se dégagera un petit peu en soirée. Les nuages seront de retour toutefois samedi 28 janvier avec un maximum de 8. Et dimanche, même chose, c'est couvert. Les nuages s'installent, restent sur Victoria. Donc dimanche 29 janvier, un maximum assez chaud de 10 degrés pour le dimanche 29 janvier et une probabilité d'averse de 60%. Le soleil, selon les prévisions d'Environnement Canada qu'on peut consulter sur le portail météo.gc.ca, reviendrait dans la journée de lundi 30 janvier. Donc c'est à suivre. On suit ça sur météo.gc.ca. Merci d'avoir été avec nous au cours de cette heure d'information à l'antenne de CILS. Le débrief vous revient lundi prochain. Demain, c'est à la même heure, même fréquence, l'émission Sport et Santé Magazine qui prend l'antenne. Une émission que j'anime hebdomadairement. En attendant, excellente soirée à tous. Thank you.
écoutez CLS FM, votre radio communautaire.
Ici Alexis Gagnon, retrouvez-moi tous les jours à 16h du lundi au jeudi dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous en information internationale, nationale, provinciale et locale à l'antenne de CILS FM 107,9 à Victoria.